Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde.
Et donc, je suis allée au culot tout le temps et ça a bien marché. Et ici, j'ai un permis de travail qui m'autorise à travailler et à faire ce que je veux dans le domaine artistique. Certainement, je n'ai pas de salaire. Il y a des mois où je travaille bien, je suis contente, ça met un peu de beurre dans les épinards ou ça nous permet de partir en week-end. Par principe, je suis juste la femme d'expat, donc par principe, je ne travaille pas. Quoi.
Dans cette partie du podcast « Oser entreprendre en expatriation », je vous invite à écouter Anne Vuitton, illustratrice et expat aux États-Unis. Elle explique ce qui l'a amenée à se lancer, ce qu'elle a ressenti en osant entreprendre, sa vision de l'entrepreneuriat aux États-Unis. On y parle même de l'argent, sujet très tabou en France, mais pas du tout de l'autre côté de l'Atlantique. Elle nous donne sa réalité d'expatpreneur. Conversation entrepreneuriale entre les Émirats Arabes Unis et la Virginie. Bonne écoute. Bonjour Anne et sois la bienvenue sur notre podcast de The Musette, Oser entreprendre en expatriation.
Bonjour Adeline, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi, ce matin tôt.
Moi aussi, je suis très contente de te recevoir, Anne, car avant de parler de ton projet, nous avons un fort point commun, je dirais. Tu as été restauratrice de tableaux, comme moi. Alors, tu as été, tu as été. Je ne sais pas si tu continues encore un petit peu.
Non, il y a 2 ans, j'ai complètement arrêté. J'ai tenu jusqu'au bout le plus longtemps possible, parce que je pense que toi comme moi, c'est des métiers de passion qu'on fait d'instinct. Mais là, c'est impossible de continuer, donc j'ai complètement arrêté. Avec regret, certains jours.
Et qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as appris de cette première expérience d'entrepreneuse
En fait, moi, j'ai toujours voulu faire de la restauration de tableaux. Donc, c'était mon objectif dès très jeune. Et j'ai adoré, enfin, j'étais faite pour ça, je pense. J'ai adoré. Et je me suis tout de suite mise à mon compte. Ouais. Donc, c'était pas facile tous les jours. En fait, je pense qu'on ose tout quand on est vraiment tout jeune. Et donc, j'y suis allée au culot tout le temps et ça a bien marché. Et ça, c'est chouette. Après, ça m'a appris à être tout de suite entrepreneur, à savoir avoir un peu toutes les casquettes toute la journée et aller chercher le client et, voilà, et gérer son entreprise. Ça m'a beaucoup aidé.
Tu avais fait quoi comme étude, toi, pour faire la restauration de tableau?
Moi, j'ai fait les ateliers de Sèvres en prépa. Déjà, j'avais fait littéraire artistique. Ensuite, j'ai fait les ateliers de Sèvres en prépa. Et après, j'ai fait 4 ans d'une école qui était gérée par les profs de l'IFROI dans Paris. Et je crois qu'elle a fermé maintenant. Et en parallèle, je commençais déjà à travailler pour des collectionneurs. Donc, c'est ce qui m'a un peu poussée en me disant, bon, j'y vais. Voilà, je pense que... j'ai pas regretté. Donc pendant 22 ans, j'avais mon atelier qui était Galerie Vivienne. Enfin, j'en ai monté un premier passage des panoramas à Paris. Et après, j'en ai monté un deuxième Galerie Vivienne. Où je me suis régalée.
Je veux bien te croire. Donc tu as toujours, comme tu disais, eu l'âme d'entrepreneuse. Tu n'as jamais eu envie d'être dans le domaine du salariat?
Certains fermes, moi, parfois on se dit serait quand même mieux. On se dit ce serait quand même plus léger. Mais non. En fait, j'ai adoré cette liberté que j'avais d'entreprendre tout le temps. J'ai fait plein d'autres choses à côté de mon métier. Et non, je ne peux pas faire autrement. En fait, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de faire plein de choses. Et ça me donnait une liberté.
D'être ton propre chef ?
Énorme.
Donc, d'être ton propre chef aussi, quoi. Ouais. Je suppose maîtriser ton temps, etc.
Exactement. Cette espèce de liberté. Et moi, j'ai un mode de fonctionnement où j'ai besoin d'être libre à 100%. Sinon, je suis ingérable. Donc, pour moi, c'est le meilleur modèle. Je ne peux pas fonctionner autrement. Alors, c'est un luxe hein, de dire ça, même si tous les jours, ce n'est pas évident.
Ouais.
C'est un vrai choix, mais c'est en même temps un vrai luxe, je reconnais.
C'est sûr. Et en arrivant aux États-Unis, parce que maintenant, donc, tu vis là-bas, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu continuer la restauration de tableaux? Je dis plus, mais je pense que tu voulais, mais bon, je dis plus parce que voilà, je pense que c'est une question de pouvoir.
Mais je pense que c'est comme toi. En fait, on se met à se poser des questions. Bon, déjà, ça faisait le troisième atelier que j'allais remonter. On ne sait jamais combien de temps on est au même endroit. Alors, entre-temps, je suis partie aussi en Normandie pendant 4 ans où je faisais des allers-retours. J'ai quand même remonté un atelier là-bas, en plus de Paris. Et j'étais arrivée à un point où je ne savais pas si j'avais vraiment l'énergie de repartir à zéro pour savoir que 3 ou 4 ans après, c'était reparti encore à zéro. En fait, ça demande une énergie et un 100% qui est énorme. Et comme ça faisait déjà beaucoup de fois que je faisais ça, cette démarche de repartir à zéro, je me suis sentie un peu fatiguée, je dois dire. Ouais. Plus ici, il y a quand même, il fallait trouver le matériel. Repartir sur une nouvelle clientèle, évidemment. Et il y a toute une partie financière d'assurance, de prise de risque, qui est complètement démesurée pour nous quand tu arrives de France. Et là, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de ça? Ça ne correspondait pas forcément à mon mode de vie à ce moment-là. Et je me suis dit non, je n'avais pas envie de mener cette bataille. Et c'était peut-être le moment de partir vers autre chose que j'ai toujours fait et que j'avais envie de... Je me suis dit, allez, je vais dans l'illustration. Je l'ai toujours fait et bah, je vais faire ça. Voilà, ça correspondait plus à ce que je voulais maintenant, à une nouvelle page voilà, de ma vie.
Ouais, alors, donc, comme tu dis, tu t'es lancé dans l'illustration. Alors, ma question est déjà la première, c'est il a fallu avoir de l'énergie pour recommencer. Mais là, c'est plus transportable, c'est plus nomade, c'est plus facile que la restauration qui amène du matériel, etc.
C'est nomade. Alors, j'ai toujours eu des carnets sur moi. J'ai toujours dessiné pour mes enfants, pour mes copains, pour tout. Donc, c'est un truc que j'ai toujours fait. Donc, c'est inhérent à mon quotidien. Tu vois, je ne peux pas, si je ne dessine pas, je suis une bombe humaine pour eux. Ce n'est pas possible. Donc, de toutes les façons, il faut que d'une manière ou d'une autre, ça sorte de ma tête, de mon cerveau. Donc, j'ai découvert l'iPad et je me suis dit, génial, tu vois, avec l'iPad, je peux l'emmener partout. Je peux le faire partout. Et donc, ça ne m'a pas semblé relever un nouveau défi. Ça m'a semblé juste faire ça 100% de mon temps et plus 10% de mon temps. C'était la continuité logique, si tu veux.
Ok, et donc, tu n'as pas eu un déclic où tu t'es dit, bon, c'est bon, maintenant je fais ça. Ou est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit, ah ouais, bah, c'est là. Là, je bascule et je fais vraiment plus la restauration de tableau, je fais ça.
Bah, arrivé aux États-Unis, moi, j'ai besoin d'être toujours en activité. Je ne peux pas ne rien faire. Et donc, c'était insupportable pour tout le monde aussi de me dire, qu'est-ce que je fais rien au quotidien. C'était pas gérable. Et je ne suis pas du tout la maman géo qui fait des puzzles du matin au soir, tu vois. Donc, il y avait un moment où ça allait coincer et je me suis mis à dessiner de plus en plus et on m'a de plus en plus fait des demandes de custom, de choses comme ça. Et donc, ça s'est mis en place naturellement, tu vois. J'ai pas eu l'impression de repartir à zéro. Après, tout ce qui est développement de nouveau, des réseaux sociaux, de ce que je veux faire précisément dans l'illustration, là, je tâtonne encore. Tu vois, j'ai toujours écrit des bouquins pour mes enfants, j'ai toujours fait des choses comme ça. Et je me dis, voilà, c'est des choses vers lesquelles j'ai envie d'aller, mais qui demandent une vraie préparation. Donc, je suis encore, je tâtonne encore dans l'installation de tout ça. Tu vois, et j'apprends à définir vraiment ce que je veux faire.
Aussi, ouais, ça s'apprend, quoi. Et dans ces cas-là, au moment où tu t'es lancée, dans quel état, où tu t'es dit, bon, ça y est, je fais vraiment l'illustration, dans quel état tu étais, comment tu te sentais? Apaisée, stressée, contente.
est-ce que j'ai augmenté mon niveau de consommation de cocktail? Je ne peux pas te dire. Tu te poses des milliards de questions. Mais finalement, ça n'a pas changé mon quotidien puisque quand tu es entrepreneur depuis le début, tu as toutes ces questions-là en tête. La grosse différence, c'est que j'avais zéro charge. toi, quand tu montes ta société, que tu n'es pas tout seul, quand tu montes ta boutique, ton atelier, ou peu importe, là, si tu veux, j'ai quand même une pression énorme, en moins par rapport à avant. J'ai aucune charge. Je le fais chez moi, je le fais n'importe où. J'ai pas d'investissement. Tu vois, potentiellement, ça ne me coûte rien. C'est hyper agréable. Enfin, c'est super.
Et ta société, tu l'as basée en France ou aux États-Unis?
Alors, en fait, je suis restée auto-entrepreneur en France. Je l'ai gardé parce que je travaille encore à 70% pour la France, tu vois. Ça fait 3 ans qu'on est ici. Les choses sont vraiment foncièrement différentes ici dans le développement de tout ça. Donc, j'ai gardé le côté auto-entrepreneur en France. Et ici, j'ai un permis de travail qui m'autorise à travailler et à faire ce que je veux dans le domaine artistique.
Ok, tu ne trouves pas ça, toi, difficile de gérer à distance le fait que... ta société est basée là-bas et que toi, physiquement, tu es ailleurs.
Ouais, alors non, aucune. Il faut juste pas oublier les déclarations, mais ça, c'était déjà le cas avant. Tu vois, tu as des petits rappels.
Ouais.
Non, la seule chose qui pose problème pour moi, c'est la poste, quoi. C'est que quand on me commande des illustrations, je peux pas. Parfois, ça met du temps à arriver. Les gens ont du mal à comprendre, mais j'y peux rien. J'adorerais prendre un avion, venir les amener moi-même, mais je peux pas. Voilà, et ça, c'est le gros point noir. C'est pour ça que là, cette année, je vais essayer plus de vraiment me centrer sur les États-Unis parce que déjà, c'est vraiment différent ici. Je pense que ça leur plaît aussi. Et c'est un nouveau challenge, mais il y a aussi ce côté-là, le côté pratique, basique.
Tu disais que, quelque part, c'était un luxe pour toi de pouvoir se lancer comme ça et tu avais assez de facilité et je me dis les gens doivent se dire bon bah elle est expat donc en plus de ça il y a ce statut de femme de qui est expat, alors attention les clichés, stop.
Ouais, le statut d'expat c'est fini, enfin je sais pas pour toi mais en tout cas moi les fins de mois elles sont pareilles. Non.
Alors, c'était ma question, voilà, c'était ça. Est-ce que c'est difficile de se lancer, voilà, parce que tu as un autre projet, donc là, l'illustration qui n'est plus la restauration de tableau, mais financièrement, même si on est expat?
Ouais, alors, franchement, forcément, 20 ans en restauration de tableau, tu gagnes bien ta vie, tu le sais, tu es installé, tu as un vrai salaire qui tombe. Après, ça dépend des mois, évidemment, parce que tu es à ton compte. Mais malgré tout, tu as quand même une base que tu sais arriver. Là, tu n'as pas grand-chose. Enfin, là, moi, certainement, je n'ai pas de salaire. Hein. Il y a des mois où je travaille bien, je suis contente, ça met un peu de beurre dans les épinards ou ça me permet de partir en week-end. Mais c'est pas encore, je ne gagne pas encore ma vie. Je n'ai pas un salaire, tu vois, quelque chose de fixe sur lequel je peux compter. Donc, c'est du plus et bon, ça nous aiderait quand même. Mon mari, il a un salaire qui est complètement cohérent avec notre vie ici, mais c'est pas du tout la folie, je mets pas d'argent de côté, c'est pas le grand luxe, en plus les États-Unis tout est absolument hors de prix, c'est incroyable, je pense que tu vis à peu près la même chose à Dubaï en ce moment, c'est pour nous, tout est démesuré, donc non, on n'est pas, financièrement, c'est pas parce qu'on est expat que c'est mieux qu'en France, je me retrouve finalement dans la même situation qu'en France, où bah non, ce serait bien quand même que je gagne un peu plus.
Ouais, et est-ce que non, mais c'est bien de le dire et d'être assez franche là-dessus parce que voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont cette image d'épinal de l'expatriation, donc c'est bien de casser un peu ça. Et ça me fait penser, est-ce que tu as aussi eu, si on continue dans les clichés, ce statut de femme d'eux? Ah, mais ouais, donc ouais. On te pose la question, qu'est-ce que tu fais toi, ou alors même pas, parce que si t'es la femme d'eux,
alors je suis. Enfin,
ou pas trop, tu n'as pas trop ressenti ça.
Dans un milieu très favorisé, où de toute façon, j'étais déjà la fille d'eux. Donc, ça ne m'a jamais posé de problème parce que j'ai toujours été complètement en décalage. Donc, et ça ne m'a pas posé de problème aussi parce que ça ne m'a jamais complexé de quoi que ce soit parce que j'ai un univers qui est bien à moi. Donc, effectivement, ici, on ne me pose jamais la question de savoir si je travaille ou pas. Alors, c'est quand même incroyable. Par principe, je suis juste la femme d'expat, donc par principe, je ne travaille pas, quoi. Ben, en fait, si, il y a plein de choses qui m'intéressent. Ah oui. Si, enfin, si, je sais de travailler quand même. Donc, ça me pose pas de problème. C'est-à-dire que dans ces cas-là, je passe à autre chose, où j'assume, où voilà, j'en parle et j'assume. Mais c'est spécial. C'est
vrai, okay. Ah oui, tu vis bien le. Oui, c'est spécial.
Quand tu as des enfants, on te dit, bon, bah, forcément, tu fais que ça. Honnêtement, pour leur survie, si je faisais que à manger, vu comme je fais à manger, on serait mal parti. Et tout le reste, pareil. Hein, tu vois, donc. C'est pareil, c'est un cliché. Mais c'est vrai que dans l'esprit des gens, tu t'es fan d'expat, tu fais rien.
Tu fais rien.
À part les courses. Enfin, et à manger.
Ok, et ton yoga. Et ton yoga.
Ah oui, voilà. Je serais mal. Ouais.
Tu parlais assez librement et c'est chouette de l'argent. C'est une notion hyper taboue en France de parler des sous, de parler de ce qu'on peut gagner ou pas. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est ça? Je crois pas. Hein.
Non. Aux États-Unis, il faut vraiment. Non, tout est affiché. La couleur est affichée. Ce qui est bien en même temps. Parce que ça leur donne une motivation. C'est vrai que l'argent domine un peu tout, donc ça leur donne une motivation qui est énorme. Et tu vois, Hugo, en high school, là, ils ont un programme, ils avaient une matinée, ils avaient un programme où ils rentraient les métiers qu'ils aimeraient faire. Et par rapport à ces métiers-là, il y avait marqué en face combien tu allais gagner. Et donc, en fonction de ça, ça te permettait de choisir ou pas ton métier. Donc, j'ai essayé de lui expliquer que ce n'était quand même pas le but initial de sa profession. D'abord, c'est d'en choisir un qui me plaise, parce qu'elle est travaillée tous les jours avec nous.
Oui, parce que ça va être...
Ça ne fait pas tout, ça ne fait pas le bonheur. Mais tu vois, comme quoi, c'est quand même très ancré dans les mentalités. Donc, lui, il voulait être avocat, mais par habitude familiale, je pense. Mais au final, après, il avait très envie d'être grand reporter. Bon, bah, quand il a rentré dans ses petites cases, il m'a dit, bon... C'est peut-être pas une bonne idée. C'était pas la meilleure rémunération.
Ah oui. Ah oui, je savais pas que dès l'école, en fait, ils mettaient le salaire en face, quoi. C'est,
et après,
c'est dingue.
Côté, c'est pas mal. Ça me paraît, que, ils ont des cours aussi pour apprendre à gérer leur argent, pour apprendre à faire des emprunts, puisque le collège est très cher. Ils ont toute cette partie-là qui est quand même. Et ce côté entrepreneuriat ici, il est instauré dès l'école. Tu peux créer ton entreprise. À l'école, au sein de l'école, il y a énormément d'enfants qui ont créé leur boîte, hein. Plein. C'est impressionnant.
Ah mais ça par contre c'est très utile. Ça c'est très utile parce que moi il y a toujours des choses que je sais pas faire, que je n'aime pas faire et que j'ai pas envie d'apprendre à faire administrativement, de façon comptable et tout. Et je trouve que c'est un manque en France qu'on n'ait pas ce genre de choses. D'apprendre à gérer son budget, savoir où écrire les impôts, les machins.
On les a, on a trois jours. C'est... On a trois jours en début, quand tu te déclares pour la première fois, tu as trois jours obligatoires. Mais c'est rien du tout. Moi, je ne sais pas compter, je te dis tout de suite que je ne suis pas sortie de la formation en me disant pouf, allez, je sais tout faire administrativement, on est bon. Non.
Non, mais donc c'est. Donc ils mettent peut-être une.
Pour ça, c'est sûr.
Ouais, il met peut-être une pression entre guillemets pour dire bon voilà, ça, si tu fais tel travail, tu gagneras ça. Mais au moins, en effet, ils ont la culture de l'entrepreneuriat.
Ouais, vraiment. Et je comprends, comme la vie est extrêmement chère, tu vois, mon deuxième fils Max, quand il s'est cassé le bras, bah, ça m'a coûté 13 000 dollars. Tu te dis, t'as intérêt quand même à bien gagner ta vie, alors que j'ai une assurance. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. Si tu veux vivre bien. Ils sont conscients de il faut gagner de l'argent. Alors, on ne dit pas en France, mais malgré tout, ben oui.
Et tu t'es fait, je suppose que vous êtes fait forcément des relations avec des amis américains. Ouais. Tu vois avec eux que cette culture, nous, on a une espèce de culture de l'échec. Hein, si tu veux, t'as raté, c'est pas bon, bah, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas ça. Est-ce que tu le vois, toi? Est-ce que tu le ressens avec tes relations?
Alors, nous, on a vraiment choisi de se mettre, que ce soit dans le Connecticut ou que ce soit ici en Virginie, on a vraiment choisi d'être dans un endroit 100% américain. Et j'ai mis mes enfants à l'école publique américaine. C'est forcément toujours une bonne idée, mais parce qu'ils perdent leur français. Mais je trouve ça incroyable, cette différence de culture et cette différence de mentalité et d'état d'esprit. J'ai suivi quelques petites formations ici pour voir un peu comment ça se passait au niveau de l'entrepreneuriat. Et on est, mais c'est à l'opposé. Moi, j'ai une éducation à l'ancienne, catholique traditionnelle, où on s'excuse de tout, on se justifie de tout, puis par principe, on se dit que ça ne va pas le faire. Mais ici, c'est tout l'inverse. Ils ont des panneaux de visualisation où ils ont leurs photos, où ils sont les plus beaux du monde, et ils te marquent à côté en quoi ils vont être les meilleurs du monde dans ce qu'ils vont faire. Alors, c'est à l'extrême, parce que ça peut passer pour un peu prétentieux, et en même temps, c'est génial. En même temps, c'est génial, tout est possible.
Ouais, parce que voilà, visualisation créative, quoi.
Ils se vendent super bien. Même quelqu'un qui finalement est très mauvais, il se vend très bien. Donc, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une force incroyable. Incroyable. La confiance en eux, elle est instaurée dès l'enfance, tu vois. Je vois ici, elle est instaurée dès l'enfance. Parce que moi, Marceau, il est arrivé, il avait 4 ans.
Ouais.
Là, il a 7 ans. Et j'ai vu chez lui ça. Mais il ne doute de rien. Hein. C'est Superman, quoi. Alors, moi, derrière, je repasse avec l'éducation à la française.
Mais tant mieux, hein.
On a un peu le truc. Ouais. T'as une mauvaise note, c'est pas grave, parce que de toute façon, t'as déjà fait super bien. Et alors, ils rentrent à la maison. Moi, je leur dis, non, t'as pas fait super bien. Pardon. On se remet dans le contexte.
On va remettre les choses au clair. Je suis française et un 7, c'est pas bien.
Voilà. Mais c'est chouette. Hein. Je reconnais que c'est
Mais j'avoue. Je vais revenir un peu sur ton projet. En te lançant dans ce domaine de l'illustration, je me dis qu'il y a pas mal de concurrence. Est-ce que tu t'es dit c'est risqué quand même?
Ouais, moi le problème c'est que je me pose jamais la question. Quand je commence à m'enflammer sur un truc, tu vois, c'est vraiment, j'ai pas de limite et. Je me pose pas. Alors, il y a les jours où je suis un peu moins bien et je me dis, bon, alors, il faut que je me fixe des vrais objectifs, il faut que je commence à vraiment réfléchir, à me poser. Et puis, en fait, le lendemain, c'est oublié quand je suis partie sur autre chose. Donc, je me pose pas la question.
T'es plus créative.
Ouais, parce que ça fait partie de ma personnalité, de ma façon de vivre. Donc, j'ai besoin de créer quoi qu'il arrive. Mais il y a énormément de concurrence. Et puis, moi, j'ai un style particulier. J'ai toujours grandi dans les BD. Je suis fan de BD, donc c'est vrai que ça se sent dans ce que je fais. Mais, et puis, je me sens toujours... j'ai toujours l'impression de faire moins bien que les autres, tu vois, par principe. Hein, faut jamais... Dès que tu commences à te poser des questions, en fait, je trouve que c'est pas bon. Tu vois, dès que je commence à me poser des questions, tu te dis des freins, en fait. Donc, j'essaie de pas m'en poser. Alors, il y a plein de choses que je maîtrise pas, tu vois, comme tous les réseaux sociaux, Instagram et tout, je suis nulle. Donc, il y a plein de choses qu'il faudrait que j'améliore. Et
mais
que je devrais vraiment me poser des questions, pour le coup. Mais ouais, non.
Mais tu fais un truc où tu t'éclates.
Bah ouais, c'est chouette.
Mais tu fais un truc où
Alors, je commençais à. Si tu veux, j'ai un peu mis en stand-by les customs parce que les dessins personnalisés. J'étais un peu coincée. Je me suis retrouvée un peu coincée. Et dans des situations avec une pression monstrueuse. Et puis, tu te sens vraiment à la merci de des gens qui ne sont pas toujours bienveillants. Donc là, j'ai un peu mis le haut là et je me suis dit, attends, je n'ai pas fait ce choix-là pour avoir de nouveau, être confrontée de nouveau à faire des choses que vraiment j'aime pas. Voilà. Donc, dans ce sens-là, je recentre un peu ce que je veux et ce que je veux pas. Voilà.
Ok, je comprends. Et pour celui ou celle qui voudrait se lancer dans l'illustration, est-ce que toi, tu peux nous dire quel était ton investissement de départ? A priori, ce n'est pas énorme.
Rien, à part, au début, je faisais tout à la main, donc peinture, pinceau, etc. Puis c'est assez limite, donc maintenant, je fais tout sur l'iPad. Donc, à part investir dans un iPad et un Apple Pen, je te dirais que c'est tout. Ensuite, moi, j'ai trouvé un super imprimeur. J'imprime certaines de mes illustrations, mais je n'imprime pas tout. Après, j'imprime à la commande. Donc, c'est vraiment mon seul investissement. Après, franchement, merci Instagram. Moi, j'ai travaillé depuis qu'on est arrivé aux US, là, il y a 3 ans. Je travaille 100% grâce à Instagram. Donc, et pourtant, je ne le maîtrise pas du tout, comme tu as pu constater. Mais le bouche à oreille, c'est tout.
Ouais, le bouche à oreille aussi. Ça fait partie du... Ouais. Ça, c'est le côté, je dirais, artisanat. Ouais. Parce que voilà, dans la restauration de tableau, c'est aussi ça, c'est aussi le bouche à oreille qui fait qu'on se fait connaître.
C'est,
quoi.
C'est que ça, en fait.
Ouais, je suis d'accord.
Et là, c'est pareil. C'est pareil. Ça prend un peu plus de temps parce que, en plus, moi, comme je suis aux États-Unis et je suis vraiment dans un tout petit endroit au milieu des bois, c'est plus compliqué de faire le bouche à oreille que quand tu es dans une grande ville, n'importe où. D'aller rencontrer les gens, c'est plus compliqué.
Ouais, c'était ma question. Ouais, j'allais te demander, est-ce que c'est facile ou plus difficile de se faire un réseau professionnel? Toi, en étant vivant où tu vis.
Il y a plein d'opportunités. Après, ça dépend, si tu veux, je suis dans le groupe là, de Français de Washington. Je suis en même temps dans le groupe de ma petite ville, là, des Women de Great Falls. Je fais toutes ces choses-là. pour rencontrer du monde et que le bouche à oreille augmente. Voilà. Ça, c'est sûr que... Mais je le faisais déjà pour la restauration de tableaux. Et surtout, je suis très réseau. Moi, j'ai toujours été très réseau. Je partage mon réseau. Je trouve qu'à plusieurs, ça marche tellement mieux. Que je mets tout le monde en connexion et c'est un truc que je fais naturellement. Au bout d'un moment, le bouche à oreille, il revient toujours. Tu vois, ça prend peut-être pas un mois, ça va prendre 3 ans, mais il revient toujours. Donc, j'essaie toujours de rencontrer des
personnes. Ouais, et ça, cette façon de mettre en réseau, c'est, ça ne vient pas un peu des États-Unis aussi, qui sont, j'ai l'impression, hein, de loin, qui, non. Non, qui non, partagent. Non,
bah, moi, je ne trouve pas du tout, tu vois. Non. Moi, ma sensation, c'est que si tu payes, tu as pardon, partage. Mais le côté très français de bonne franquette, on se met au coin d'un verre et on va discuter simplement, il est plus compliqué. Et tu as plus de rétention.
Est-ce que tu aurais monté aimé un autre business?
Mais plein, mais tous les jours. Donc en fait, non, je me canalise. Je me canalise, mais toujours avec de l'illustration.
La prochaine fois, on va la retrouver.
Toujours avec de l'illustration.
Ah, oui, toujours dans le. Ouais. Ok.
Et là, j'ai une copine américaine qui m'a lancée sur un nouveau projet. Et donc voilà, je suis à fond et je pense que derrière, il peut y avoir d'autres choses. Complètement. Mais c'est un moteur aussi, cool. Je trouve. C'est un moteur aussi. Tu vois, quand tu fais des nouvelles rencontres, t'as des nouveaux projets. Tu vois. Voilà, moi, je fonctionne comme ça.
Ok. Qu'est-ce que tu veux transmettre avec tes illustrations? Un message?
Écoute, moi, vraiment, l'idée, c'est de créer une ambiance chez les gens et qu'ils se sentent bien quand ils les regardent. Souvent, c'est de les faire sourire. Je mets toujours plein de petits détails un peu amusants. C'est de les faire sourire, c'est d'instaurer un univers, tu vois. J'ai une gamme de couleurs qui est toujours un peu la même, qui est assez douce. C'est cette ambiance-là, voilà, tu vois, c'est apporter cette ambiance-là. Après, rien de révolutionnaire, hein, mais... Et ouvrir un peu mon univers à moi. Voilà, tu vois. Tout simplement.
Ok, très bien.
Bah,
c'est
déjà
bien.
Beaucoup.
C'est quoi, si je te demande, c'est quoi la prochaine étape de Anne Vuitton Illustration?
Alors, en essayant de me canaliser, je me suis vraiment,
quoi.
Non, déjà vraiment, il faut que je m'améliore sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que j'arrive quand même à m'y mettre et à comprendre. Ça prend un temps fou, c'est chronophage, c'est pas toi que je vais le dire. Mais je pense qu'il faut que j'arrive à être plus efficace.
Oui.
Ça, c'est vraiment un de mes objectifs. Et ensuite, je veux plus développer plus aux États-Unis. Donc là, je suis dans 3 boutiques aux États-Unis. Je suis hyper contente. Mais voilà, je voudrais augmenter mon bouche à oreille aux États-Unis et puis aboutir ce projet. Là, dont je te parlerai quand il sera, la première fois, quand ce sera sorti. J'espère dans 2 semaines. J'espère que je bosse un peu plus.
Sympa.
Plus vite. Mais voilà, c'est les 3 objectifs.
Et quel serait ton conseil, si tu pouvais en donner un, à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat en étant expat?
Après, chaque expat est différente et puis chaque pays est différent. Je pense que toi, à Dubaï ou quand tu étais à Amsterdam, tu n'es pas confronté aux mêmes choses que moi. Ici, je dirais qu'il faut être quand même bien entouré juridiquement. C'est-à-dire que je pense qu'avoir un avocat, c'est indispensable. Indispensable. C'est cher, mais je pense que ça t'évite de commettre la moindre erreur. Et ici, la moindre erreur, elle est fatale. Donc, voilà. Moi, la base, c'est vraiment, tu prends un avocat. Après, il y a beaucoup de choses que tu peux faire en ligne. Tu vois, tu veux créer une LLC, comme on parlait l'autre jour. Tu peux le faire en ligne. C'est très simple, ça prend 2 minutes. Mais derrière, tout ce qui est administratif. Tu vois, les papiers qu'on a à remplir pour les taxes ou pour les permis, etc. Mais c'est 40 pages. De questions et de papiers, documents à fournir qui sont très approfondis. Quand t'es novice, t'as intérêt à être entouré. Tu vois, moi j'ai de la chance parce que justement on est envoyé par une grosse société ici et qui gère toute cette partie-là pour nous. Enfin, non, on remplit quand même les 40 pages qui nous font quand même à peu près un mois de soirée pour tricoter le truc. Mais après, heureusement qu'on les a derrière pour vérifier. Et pour se charger de le dernier envoi, le dernier truc, parce que sinon on serait mal. Et c'est très clairement.
Non, mais bon, c'est un bon conseil pour ceux qui veulent se lancer, s'ils vivent aux États-Unis. Voilà, c'est un bon conseil,
y aller,
je pense.
Il faut y aller parce que
Écoute,
tout est permis. Enfin, et le côté super agréable, c'est que si tu te plantes, ils trouvent ça super parce que tu as essayé. Ça n'a rien à voir. Donc, tu n'as pas de honte à dire, bah là, je me suis plantée, mais je vais repartir sur autre chose. Ils trouvent ça génial. Donc, je dirais, il faut y aller. Hein. En tout cas, aux États-Unis, il faut y aller.
Oui, parce que quelque part, il faut du courage pour recommencer à chaque fois. Enfin, à chaque fois, tu vois. Mais il faut du courage pour se dire, bon, bah, j'y vais, j'y retourne, quoi.
Bah oui, tu vois ce que je veux dire.
Les montagnes russes de l'entrepreneuriat, on connaît.
Bah oui, c'est ça.
Écoute, merci, merci Anne d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, même aux plus délicates, tout ça sans langue de bois, d'avoir partagé tes conseils. Si vous souhaitez retrouver, enfin voir même les illustrations de Anne, n'hésitez pas à aller sur le site de The Musette. Et puis, je vous invite à découvrir son prochain podcast, toujours sur The Musette, pour découvrir sa ville avec ses yeux d'expatrié. À bientôt, Anne.
Merci, à bientôt.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.